Histoire d'un crime de Victor Hugo. Deuxième journée. La lutte. 2-1. On vient pour m'arrêter. Pour aller de la rue Popincourt à la rue Caumartin, il faut traverser tout Paris. Nous trouvâmes partout un grand calme apparent. Il était 1 heure du matin quand nous arrivâmes chez M. de la Hère. Le fiacre s'arrêta près d'une grille que M. de la Hère ouvrit à l'aide d'un passe-partout. À droite, sous la voûte, un escalier montait au premier étage d'un corps de logis isolé que M. de la Hère habitait et où il m'introduisit. Nous pénétrâmes dans un petit salon fort richement meublé, éclairé d'une veilleuse et séparé de la chambre à coucher par une portière en tapisserie aux 2/3 fermée. M. de la Hère entra dans cette chambre et en ressortit quelques minutes après en compagnie d'une ravissante femme blanche et blonde, en robe de chambre, les cheveux dénoués, belle, fraîche, stupéfaite, douce pourtant, et me considérant avec cet effarement qui, dans un jeune regard, est une grâce de plus. Madame de la Hère venait d'être réveillée par son mari. Elle resta un moment sur le seuil de sa chambre, souriant, dormant, très étonnée, un peu effrayée, fixant ses yeux tour à tour sur son mari et sur moi, n'ayant jamais songé peut-être à ce que c'était que la guerre civile, et la voyant entrer brusquement chez elle, au milieu de la nuit, sous cette forme inquiétante d'un inconnu qui demande un asile. Je fis à Madame de la Hère 1000 excuses qu'elle reçut avec une bonté parfaite, et la charmante femme profita de l'incident pour aller caresser une jolie petite fille de 2 ans qui dormait au fond du salon dans son berceau. Et l'enfant qu'elle baisa lui fit pardonner au proscrit qui la réveillait. Tout en causant, M. de la Hère alluma un excellent feu dans la cheminée, et sa femme, avec un oreiller et des coussins, un caban à lui, une pelisse à elle, m'improvisa en face de la cheminée un lit sur un canapé un peu court que nous allongeâmes avec un fauteuil. Pendant la délibération de la rue Popincourt que je venais de présider, Baudin m'avait passé son crayon pour prendre note de quelques noms. J'avais encore ce crayon sur moi. J'en profitai pour écrire à ma femme un billet que Madame de la Hère se chargea de porter elle-même à Madame Victor Hugo le lendemain. Tout en vidant mes poches, j'y trouvai une loge pour les Italiens que j'offris à Madame de la Hère. Je regardais ce berceau, ces 2 beaux jeunes gens heureux, et moi, avec mes cheveux et mes habits en désordre, mes souliers couverts de boue, une pensée sombre dans l'esprit, et je me faisais un peu l'effet du hibou dans le nid des rossignols. Quelques instants après, monsieur et madame de la Hère avaient disparu dans leur chambre. La portière entr'ouverte s'était refermée, je m'étais étendue tout habillée sur le canapé, et ce doux nid, troublé par moi, était rentré dans son gracieux silence. On peut dormir la veille d'une bataille entre armées. La veille d'une bataille entre citoyens, on ne dort pas. Je comptais toutes les heures qui sonnaient à une église peu éloignée. Toute la nuit passèrent dans la rue qui était sous les fenêtres du salon où j'étais couché des voitures qui s'enfuyaient de Paris. Elles se succédaient rapides et pressées. On eût dit la sortie d'un bal. Ne pouvant sortir, je m'étais levé. J'avais un peu écarté les rideaux de mousseline d'une fenêtre et je cherchais à voir dehors. L'obscurité était complète. Pas d'étoiles, les nuages passaient avec la violence diffuse d'une nuit d'hiver, un vent sinistre soufflait. Ce vent des nuées ressemblait au vent des événements. Je regardais l'enfant endormi. J'attendais le petit jour. Il vint. Monsieur de la Hère m'avait expliqué, sur ma demande, de quelle façon je pourrais sortir sans déranger personne. Je baisai au front l'enfant et je sortis du salon. Je descendis en fermant les portes derrière moi le plus doucement que je pus pour ne pas réveiller Madame de la Hère. La grille s'ouvrit et je me trouvai dans la rue. Elle était déserte, les boutiques étaient encore fermées, une laitière, son âne à côté d'elle, rangeait paisiblement ses pots sur le trottoir. Je n'ai plus revu M. de la Hère. J'ai su depuis, dans l'exil, qu'il m'avait écrit et que sa lettre avait été interceptée. Il a, je crois, quitté la France, que cette page émue lui porte mon souvenir. la rue Caumartin donne dans la rue Saint-Lazare. Je me dirigeais de ce côté-là. Il faisait tout à fait jour. J'étais à chaque instant atteint et dépassé par des fiacres chargés de malles et de paquets qui se hâtaient vers le chemin de fer du Havre. Les passants commençaient à se montrer. Quelques équipages du train remontaient la rue Saint-Lazare en même temps que moi. Vis-à-vis du numéro 42, autrefois habité par Mademoiselle Mars, je vis une affiche fraîche posée sur le mur. Je m'approchai, je reconnus les caractères de l'imprimerie nationale et je lus. Composition du nouveau ministère. Intérieur, Monsieur de Morny. Guerre, Monsieur le général de division de Saint-Arnaud. Affaires étrangères, Monsieur de Turgot. Justice, Monsieur Rouher. Finances, Monsieur Fulde. Marine, Monsieur Ducot. Travaux publics, Monsieur Magne. Instruction publique, Monsieur H. Fortoul. Commerce, Monsieur Lefebvre du Rufflet. J'arrachai l'affiche et je la jetai dans le ruisseau. Les soldats du train qui menaient les fourgons me regardèrent faire et passèrent leur chemin. Rue Saint-Georges, près d'une porte bâtarde, encore une affiche. C'était l'appel au peuple. Quelques personnes la lisaient. Je la déchirai, malgré la résistance du portier, qui me parut avoir la fonction de la garder. Comme je passais place Bréda, quelques fiacres y étaient déjà arrivés. J'en pris un. J'étais près de chez moi. La tentation était trop forte. J'y allais. En me voyant traverser la cour, le portier me regarda d'un air stupéfait. Je sonnai. Mon domestique Isidore vint m'ouvrir et jeta un grand cri. « Ah, c'est vous, monsieur ! On est venu cette nuit pour vous arrêter !» J'entrai dans la chambre de ma femme. Elle était couchée, mais ne dormait pas, et me conta la chose. Elle s'était couchée à 11 heures. Vers minuit et demi, à travers cette espèce de demi-sommeil qui ressemble à l'insomnie, elle entendit des voix d'hommes. Il lui sembla qu'Isidore parlait à quelqu'un dans l'antichambre. Elle n'y prit d'abord pas garde et essaya de s'endormir. Mais le bruit de voix continua. Elle se leva sur son séant et sonna. Isidore arriva, elle lui demanda « Est-ce qu'il y a là quelqu'un ?»«
Oui, madame. »
« Qui est-ce ? » C'est quelqu'un qui désire parler à monsieur. Monsieur est sorti. C'est ce que j'ai dit, madame. Eh bien, ce monsieur ne s'en va pas ?
Non, madame.
Il est dit qu'il a absolument besoin de parler à monsieur Victor Hugo et qu'il l'attendra. Isidore s'était arrêté sur le seuil de la chambre à coucher pendant qu'il parlait à un homme gras, frais, vêtu d'un paletot, sous lequel on voyait un habit noir, apparu à la porte, derrière lui. Madame Victor Hugo aperçut cet homme qui écoutait en silence. « C'est vous, monsieur, qui désirez parler à monsieur Victor Hugo ?»«
Oui, madame. » »«
Il est sorti. J'aurai l'honneur de l'attendre, madame. » »«
Il ne rentrera pas.
Il faut pourtant que je lui parle. » »«
Monsieur, si c'est quelque chose qu'il soit utile de lui dire, vous pouvez me le confier à moi en toute sécurité. Je le lui rapporterai fidèlement. »«
Madame, c'est à lui-même qu'il faut que je parle. »
Mais de quoi s'agit-il donc ? Est-ce des affaires politiques ?
L'homme ne répondit pas.
À ce propos, reprit ma femme, que se passe-t-il ?
Je crois, madame, que tout est terminé.
Dans quel sens ?
Dans le sens du président. Ma femme regarda cet homme fixement et lui dit :
Monsieur, vous venez pour arrêter mon mari ?
C'est vrai, madame, répondit l'homme en entrouvant son paletot qui laissa voir une ceinture de commissaire de police. Il ajouta après un silence « Je suis commissaire de police et je suis porteur d'un mandat pour arrêter M. Victor Hugo. Je dois faire perquisition et fouiller la maison.
« Votre nom, monsieur ?» lui dit Mme Victor Hugo.
« Je m'appelle Hiver.
Vous connaissez la Constitution ?»«
Oui, madame. »
Vous savez que les représentants du peuple sont inviolables ?
Oui, madame.
C'est bien, monsieur, dit-elle froidement. Vous savez que vous commettez un crime. Les jours comme celui-ci ont un lendemain. Allez, faites.
Le sieur Hiver essaya quelques paroles d'explication, ou pour mieux dire, de justification. Il bégaya le mot « conscience », il balbutia le mot « honneur ». Madame Victor Hugo, calme jusque-là, ne put s'empêcher de l'interrompre avec quelque rudesse.
« Faites votre métier, monsieur, et ne raisonnez pas. Vous savez que tout fonctionnaire qui porte la main sur un représentant du peuple commet une forfaiture. Vous savez que devant les représentants, le président n'est qu'un fonctionnaire comme les autres. Le premier est chargé d'exécuter leurs ordres. Vous osez venir arrêter un représentant chez lui comme un malfaiteur. Il y a en effet ici un malfaiteur qu'il faudrait arrêter. C'est vous. Le sieur Hiver baissa la tête et sortit de la chambre. Et, par la porte restée entrebâillée, ma femme vit défiler, derrière le commissaire bien nourri, bien vêtu et chauve, 7 ou 8 pauvres diables efflanqués, portant des redingotes sales qui leur tombaient jusqu'aux pieds, et d'affreux vieux chapeaux rabattus sur les yeux. Loups conduits par le chien. Ils visitèrent l'appartement, ouvrirent çà et là quelques armoires, et s'en allèrent, l'air triste, me dit Isidore. Le commissaire Hiver, surtout, avait la tête basse. Il la releva pourtant à un certain moment. Isidore, indigné de voir ses hommes chercher ainsi son maître dans tous les coins, se risqua à les narguer. Il ouvrit un tiroir et dit « Regardez donc s'il ne serait pas là !» Le commissaire de police eut dans l'œil un éclair furieux et cria « Valet, prenez garde à vous !» Le valet, c'était lui. Ces hommes partis, il fut constaté que plusieurs de mes papiers manquaient. Des fragments de manuscrits avaient été volés, entre autres une pièce datée de juillet 1848 et dirigée contre la dictature militaire de Cavaignac. Et où il y avait ces vers, écrits à propos de la censure, des conseils de guerre, des suppressions de journaux, et en particulier de l'incarcération d'un grand journaliste, Émile de Girardin. Ô honte, un lansquenet, gauche, et parodiant César dont il hérite, gouverne les esprits du fond de sa guérite. Ces manuscrits sont perdus. La police pouvait revenir d'un moment à l'autre. Elle revint en effet quelques minutes après mon départ. J'embrassai ma femme, je ne voulus pas réveiller ma fille qui venait de s'endormir, et je redescendis. Quelques voisins effrayés m'attendaient dans la cour. Je leur criai en riant « Pas encore pris !» Un quart d'heure après, j'étais rue des Moulins, numéro 10. Il n'était pas encore 8 heures du matin, et, pensant que mes collègues du comité d'insurrection avaient dû passer la nuit là, je jugeai utile d'aller les prendre pour nous rendre tous ensemble à la salle Roisin. Je ne trouvai rue des Moulins que Madame Landrin. On croyait la maison dénoncée et surveillée, et mes collègues s'étaient transportés rue Villedot, numéro 7, chez l'ancien constituant Leblon, avocat des associations ouvrières. Jules Favre y avait passé la nuit. Madame Landrin déjeunait, elle m'offrit place à côté d'elle, mais le temps pressait. J'emportai un morceau de pain et je partis. Rue Villedot, numéro 7, la servante qui vint m'ouvrir m'introduisit dans un cabinet où étaient Carnot, Michel de Bourges, Jules Favre et le maître de la maison, notre ancien collègue, le constituant Leblon. « J'ai en bas une voiture, leur dis-je. Le rendez-vous est pour 9 heures à la salle Roisin, au faubourg Saint-Antoine. Partons !» Mais ce n'était point leur avis. Selon eux, les tentatives faites la veille au faubourg Saint-Antoine avaient éclairé ce côté de la situation. Elles suffisaient. Il était inutile d'insister. Il était évident que les quartiers populaires ne se lèveraient pas. Il fallait se tourner du côté des quartiers marchands, renoncer à remuer les extrémités de la ville et agiter le centre. Nous étions le comité de résistance, l'âme de l'insurrection. Aller au faubourg Saint-Antoine, investi par des forces considérables, c'était nous livrer à Louis Bonaparte. Ils me rappelèrent ce que j'avais moi-même dit la veille, rue Blanche, à ce sujet. Il fallait organiser immédiatement l'insurrection contre le coup d'État, et l'organiser dans les quartiers possibles, c'est-à-dire dans le vieux labyrinthe des rues Saint-Denis et Saint-Martin. Il fallait rédiger des proclamations, préparer des décrets, créer un mode de publicité quelconque. On attendait d'importantes communications des associations ouvrières et des sociétés secrètes. Le grand coup que j'aurais voulu porter par notre réunion solennelle de la salle Roisin avorterait. Ils croyaient devoir rester où ils étaient. et le comité étant peu nombreux et le travail à faire étant immense, ils me priaient de ne pas les quitter. C'étaient des hommes d'un grand cœur et d'un grand courage qui me parlaient. Ils avaient évidemment raison, mais je ne pouvais pas, moi, ne point aller au rendez-vous que j'avais moi-même fixé. Tous les motifs qu'ils me donnaient étaient bons. J'aurais pu opposer quelques doutes pourtant, mais la discussion eut pris trop de temps et l'heure avançait. Je ne fis pas d'objection et je sortis du cabinet sous un prétexte quelconque. Mon chapeau était dans l'antichambre, mon fiacre m'attendait et je pris le chemin du faubourg Saint-Antoine. Le centre de Paris semblait avoir gardé sa physionomie de tous les jours. On allait et venait, on achetait et on vendait, on jasait et on riait, comme à l'ordinaire. Rue Montorgueil, j'entendis un orgue de barbarie. Seulement, en approchant du faubourg Saint-Antoine, le phénomène que déjà j'avais remarqué la veille était plus sensible. La solitude se faisait, et une certaine paix lugubre. Nous arrivâmes, place de la Bastille. Mon cocher s'arrêta. « Allez, lui dis-je. » 2-2. De la Bastille à la rue de Côte. La place de la Bastille était tout à la fois déserte et remplie. 3 régiments en bataille, pas un passant. 4 batteries attelées étaient rangées au pied de la colonne. Çà et là, quelques troupes d'officiers parlaient à voix basse, sinistre. Un de ces groupes, le principal, fixa mon attention. Celui-là était silencieux, on n'y causait pas. C'étaient plusieurs hommes à cheval, l'un en avant des autres, en habit de général avec le chapeau bordé à plumes noires, derrière cet homme, 2 colonels, et derrière les colonels, une cavalcade d'aides de camp et d'officiers d'état-major. Ce peloton chamarré se tenait immobile et comme en arrêt entre la colonne et l'entrée du faubourg. À quelque distance de ce groupe se développaient, couvrant toute la place, les régiments en bataille et les canons en batterie. Mon cocher s'arrêta encore. « Continuez, lui dis-je, entrez dans le faubourg. Mais, monsieur, on va nous empêcher. Nous verrons. » La vérité, c'est qu'on ne nous empêcha point. Le cocher se remit en route, mais hésitant et marchant au pas. L'apparition d'un fiacre dans la place avait causé quelques surprises, et les habitants commençaient à sortir des maisons. Plusieurs s'approchaient de ma voiture. Nous passâmes devant le groupe d'hommes à grosses épaulettes. Ces hommes, tactiques comprises plus tard, n'avaient pas même l'air de nous voir. L'émotion que j'avais eue la veille devant le régiment de cuirassiers me reprit. Voir en face de moi, à quelques pas, debout, dans l'insolence d'un triomphe tranquille, les assassins de la patrie, cela était au-dessus de mes forces. Je ne pus me contenir. Je m'arrachai mon écharpe, je la pris à poignée, et, passant mon bras et ma tête par la vitre du fiacre baissée et agitant l'écharpe, je criai. « Soldats, regardez cette écharpe! C'est le symbole de la loi, c'est l'Assemblée nationale visible. Où est cette écharpe et le droit? Eh bien, voici ce que le droit vous ordonne. On vous trompe, rentrez dans le devoir. C'est un représentant du peuple qui vous parle, et qui représente le peuple, représente l'armée. Soldats, avant d'être des soldats, vous avez été des paysans, vous avez été des ouvriers, vous avez été et vous êtes des citoyens. Citoyens, écoutez-moi donc quand je vous parle. La loi seule a le droit de vous commander. Eh bien, aujourd'hui la loi est violée. Par qui? Par vous. Louis Bonaparte vous entraîne à un crime. Soldats, vous qui êtes l'honneur, écoutez-moi, car je suis le devoir. Soldats, Louis Bonaparte assassine la République, défendez-la. Louis Bonaparte est un bandit, tous ses complices le suivront au bagne. Ils y sont déjà. Qui est digne du bagne est au bagne. Mériter la chaîne, c'est la porter. Regardez cet homme qui a votre tête et qui ose vous commander. Vous le prenez pour un général, c'est un forçat. Les soldats semblaient pétrifiés. quelqu'un qui était là, remerciement à cette généreuse âme dévouée, m'étreignit le bras, s'approcha de mon oreille et me dit « Vous allez vous faire fusiller ». Mais je n'entendais pas et je n'écoutais rien. Je poursuivis, toujours secouant l'écharpe. « Vous qui êtes là, habillé comme un général, c'est à vous que je parle, monsieur. Vous savez qui je suis. Je suis un représentant du peuple, et je sais qui vous êtes, et je vous l'ai dit, vous êtes un malfaiteur. Maintenant, voulez-vous savoir mon nom ? Le voici !» Et je lui criais mon nom. Et j'ajoutais, « À présent, vous, dites-moi le vôtre !» Il ne répondit pas. Je repris, « Soit, je n'ai pas besoin de savoir votre nom de général, mais je saurai votre numéro de galérien. » L'homme en habit de général courba la tête. Les autres se turent. Je comprenais tous ces regards pourtant, quoiqu'ils ne se levassent pas. Je les voyais baisser et je les sentais furieux. J'eus un mépris énorme et je passai outre. Comment s'appelait ce général ? Je l'ignorais et je l'ignore encore. Une des apologies du coup d'État publiées en Angleterre, en rapportant cet incident et en le qualifiant de « provocation insensée et coupable », dit que la « modération » montrée par les chefs militaires en cette occasion fait honneur au général. Nous laissons à l'auteur de ce panégyrique la responsabilité de ce nom et de cet éloge. Je m'engageai dans la rue du Faubourg Saint-Antoine. Mon cocher, qui savait mon nom désormais, n'hésita plus et poussa son cheval. Ces cochers de Paris sont une race intelligente et vaillante. Comme je dépassais les premières boutiques de la grande rue, 9 heures sonnaient à l'église Saint-Paul. « Bon, me dis-je, j'arrive à temps. » Le faubourg avait un aspect extraordinaire. L'entrée était gardée mais non barrée par 2 compagnies d'infanterie. 2 autres compagnies étaient échelonnées plus loin de distance en distance, occupant la rue et laissant le passage libre. Les boutiques, ouvertes à l'entrée du faubourg, n'étaient plus qu'entrebâillées 100 pas plus loin. Les habitants, parmi lesquels je remarquai beaucoup d'ouvriers en blouse, s'entretenaient sur le seuil des portes et regardaient. Je remarquai à chaque pas les affiches du coup d'État intactes. Au-delà de la fontaine qui fait l'angle de la rue de Charonne, les boutiques étaient fermées. 2 cordons de soldats se prolongeaient des 2 côtés de la rue du Faubourg sur la lisière des trottoirs. Les soldats étaient espacés de 5 pas en 5 pas, le fusil haut, la poitrine effacée, la main droite sur la détente, prêts à mettre en joue, gardant le silence, dans l'attitude du guet. À partir de là, à l'embouchure de chacune des petites rues qui viennent aboutir à la grande rue du Faubourg, une pièce de canon était braquée. Quelquefois c'était un obusier. Pour se faire une idée précise de ce qu'était cette disposition militaire, on n'a qu'à se figurer, se prolongeant des 2 côtés du faubourg Saint-Antoine, 2 chapelets dont les soldats seraient les chaînes et les canons les nœuds. Cependant mon cocher devenait inquiet. Il se retourna vers moi et me dit « Monsieur, ça m'a tout l'air que nous allons rencontrer des barricades par là. Faut-il retourner ?»« Allez toujours, » lui dis-je. Il continua d'avancer. Brusquement, ce fut impossible. Une compagnie d'infanterie, rangée sur 3 lignes, occupait toute la rue d'un trottoir à l'autre. Il y avait à droite une petite rue. Je dis au cocher « Prenez par là. » Il prit à droite, puis à gauche. Nous pénétrâmes dans un labyrinthe de carrefours. Tout à coup, j'entendis une détonation. Le cocher m'interrogea, « Monsieur, de quel côté faut-il aller ? Du côté où vous entendez des coups de fusil. » Nous étions dans une rue étroite. Je voyais à ma gauche, au-dessus d'une porte, cette inscription, « Grand Lavoir ». Et à ma droite, une place carrée, avec un bâtiment central qui avait l'aspect d'un marché. La place et la rue étaient désertes. Je demandai au cocher, « Dans quelle rue sommes-nous ? Dans la rue de Côte. Où est le café Roisin ? Droit devant nous. Allez-y. » Il se remit à marcher, mais au pas. Une nouvelle détonation éclata, celle-ci très près de nous. L'extrémité de la rue se remplit de fumée. Nous passions en ce moment-là devant le numéro 22, qui a une porte bâtarde, au-dessus de laquelle je lisais « Peut-il avoir ?» Subitement, une voix cria au cocher « Arrêtez !» Le cocher s'arrêta, et la vitre du fiacre étant baissée, une main se tendit vers la mienne. Je reconnus Alexandre Ray. Cet homme intrépide était pâle. « N'allez pas plus loin, me dit-il, c'est fini. »«
Comment, fini ?»«
Oui, on a dû avancer l'heure. La barricade est prise, j'en arrive. Elle est à quelques pas d'ici, devant nous. » Et il ajouta, « Baudin est tué. » La fumée se dissipait à l'extrémité de la rue. « Voyez, me dit Alexandre Ray. » J'aperçus, à 100 pas devant nous, au point de jonction de la rue de Côte et de la rue Sainte-Marguerite, une barricade très basse que les soldats défaisaient. On emportait un cadavre. C'était Baudin.